Je vous invite à prendre votre guide et à regarder avec moi dans l'épître aux Hébreux, une fois de nouveau. Nous continuons notre étude ici dans le chapitre 10. Et mon texte pour ce message est à partir du verset 19 jusqu'au verset 26. Et je voudrais vous parler de ce que Jésus a fait pour son peuple. Nous étions jusque-là en train d'étudier concernant l'œuvre définie du Seigneur Jésus-Christ, une offrande une fois pour toutes, et c'est grâce à sa mort que le peuple de Dieu qu'il a élu est donc maintenant déjà réconcilié avec lui et justifié devant lui. Donc c'est ce thème que nous continuons ici dans Hébreux 10 à partir du verset 19 et nous pouvons aller jusqu'au verset 27, Dieu voulant. Mais je lis Hébreux 10, 19, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, et là il s'agit de sa mort à la croix, notons bien les mots ici, une libre entrée dans le sanctuaire, par la nouvelle route et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la reconnaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Oh, combien nous voyons ici ce que l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ a accompli pour son peuple. Et c'est ce qui est résumé ici dans les versets 19 à 21 que je viens de lire. En quelque sorte, on peut dire avoir de l'audace. C'est ce que cette œuvre de Christ donne à chacun de ses enfants, de pouvoir entrer librement dans la présence de Dieu, ayant déjà en Christ un sacrifice donné une fois pour toutes. Et cela en contraste avec les sacrificateurs de l'Ancien Testament et les sacrifices qui ne pouvaient cesser et que même le peuple devait rester à l'écart et observer les sacrificateurs entrer et sortir à leur place. Mais maintenant, ce que nous lisons ici, et c'est comme un fait accompli, pas simplement une exhortation, que nous avons accès à une approche libre. Voilà le verset 19, une libre entrée dans le sanctuaire. Donc le propos est simple. Ceux qui ont cette liberté sont maintenant exhortés à entrer et bénéficier de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli déjà. Le jour des expiations dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur est entré dans le lieu le plus saint de tous, mais avec crainte et tremblement. Mais nous, en contraste, nous avons une entrée dans le lieu très saint avec liberté. On n'abuse pas cela. Et on n'a pas de la présomption pour dire, ah, mais je peux entrer et sortir comme je veux. Non, nous entrons et nous sortons toujours avec cette crainte de Dieu, mais c'est une crainte de joie, sachant ce que le Seigneur Jésus-Christ a déjà accompli à notre égard. Donc, ici, particulièrement, il convient de prêter une attention particulière au mot avoir, ou bien nous avons. Vous voyez ça dans le verset 19. Ainsi donc, frère, puisque nous avons, la manière que c'est écrit, c'est pour indiquer que nous avons toujours cette expérience est toujours au présent. Et c'est impossible d'exagérer ici le temps présent de cette vie bénie dont nous avons cet accès grâce à l'œuvre du Christ qu'il a accompli il y a bien d'années. Voilà le fondement de notre foi. Et voilà comment nous nous approchons. Si on n'avait pas cette œuvre du Christ, on ne pouvait pas s'approcher parce que nous sommes toujours des pécheurs. Mais avec cette liberté, c'est ce que la grâce donne, d'entrer dans la présence de Dieu, sans crainte, sachant que nos péchés ont été déjà effacés, et que l'œuvre de Christ accomplie à la croix a une fois pour toutes sanctifié et justifié chacun de ceux que Dieu a élus. Notons, ça n'a pas toujours été comme ça. Et voilà le contraste que l'auteur aux Hébreux est en train de tirer maintenant entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, avant l'accomplissement de l'œuvre de Christ, tous ces règlements étaient nécessaires de faire attention, de suivre exactement. Il n'y avait pas cette liberté d'entrer et sortir. Mais maintenant, notons le verset 20 dit, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, chaque aspect du tabernacle représentait un aspect de Christ. Et ici, le voile de l'Ancien Testament représentait sa chair. C'est pourquoi le jour que Christ est mort sur la croix, ce voile du temple était déchiré du haut jusqu'en bas. Ça représente le corps et la chair de Christ qui a été rompu pour le péché de son peuple. Mais, étant ainsi, une fois que ce voile était déchiré, cela démontre maintenant une entrée. Mais voilà, les Juifs n'ont pas compris ce miracle qui s'est passé et sont partis et ont cousu de nouveau le voile, remis à sa place et continué les sacrifices des animaux. Ils n'ont pas compris que l'agneau de Dieu vient d'être offert à Dieu. Et donc, tout était fini, plus besoin d'autres sacrifices. Mais quand ça dit une voie nouvelle, ou bien une route nouvelle, comme c'est écrit ici, cela signifie que le sacrifice de Jésus-Christ, notons, est toujours prêt, selon l'Esprit de Dieu. Et que cette bénédiction continue pour toujours. Cela doit être vrai pour nous aujourd'hui, ou bien si encore des siècles passent avant que Christ ne revienne, qui qu'il soit, que Christ a racheté à la croix étant élu de Dieu, cette route nouvelle et vivante est toujours en place. C'est pas comme les routes de nos jours, on peut bien bitumer une fois et puis après un certain temps d'usage, ah voilà, il faut encore revenir là-dessus. Notons ici, ça a été inauguré pour nous. Et quand ça s'est écrit pour nous, bien des siècles plus tard, nous lisons cela et nous disons pour nous. C'est-à-dire ceux pour qui Christ est mort. Et cette route est toujours nouvelle et vivante à cause de l'œuvre de Christ. Et c'est évident ici, quand c'est écrit, que ça a été inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Il s'agit là une allusion au sang de Christ comme la victime propitiatoire, et que le sang, vous savez, le sang des animaux devait, avec le temps, courir. Mais ici, il s'agit d'une voie nouvelle et vivante qui est toujours fraîche et que le sang ne diminue jamais en ce qui concerne sa puissance de pouvoir couvrir, non seulement couvrir, mais remettre le péché, continuer à remettre le péché de ceux pour qui le sang a été versé. Alors voilà ce qui est une exhortation pour nous de bénéficier de cet état que Christ a accompli à l'égard de son peuple. Et lorsque nous continuons ici dans le verset 22, c'est la conclusion. Puisque cela est vrai, ce que nous venons voir, et nous constatons ce que Christ a accompli déjà à l'égard de son peuple et de sa maison. Vous voyez, il y a une maison de Dieu qui n'est pas construite des mains des hommes. C'est écrit dans le verset 21, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Il y a une seule maison de Dieu qui a été fondée. Le fondement a été placé dans le corps et le sang du Christ, son sacrifice. Et les murs qui sont bâtis, les pierres qui sont placées dessus, les élus de Dieu, pour qui Christ a donné son sang, voilà la maison de Dieu. Ce n'est pas les maisons du culte que les gens appellent aujourd'hui maison de Dieu. Non, la maison de Dieu est spirituelle. Et ça consiste de ce que Christ lui-même a racheté déjà. Et c'est ceux-là qui sont encouragés dans le verset 22 de s'approcher encore en vue de ce que Christ a accompli à l'égard de son peuple. Voilà le commandement, approchons-nous. Et ce n'est pas une question nécessairement de s'approcher physiquement, mais approchons-nous avec un cœur sincère. Voilà où l'œuvre de la grâce de Dieu se passe, c'est dans le cœur. Quand on se lève et on se regarde dans le miroir, chaque jour on se rend compte que ce corps ne fait qu'affaiblir, vieillir, mais l'œuvre de la grâce de Dieu, on peut bien être des enfants de Dieu et dans un état affaibli physiquement. Mais spirituellement, ça ne doit jamais être le cas. Grâce à ce que Christ a accompli, cela veut dire du fond du cœur, approchons-nous avec un cœur sincère. J'ai déjà expliqué auparavant que le mot sincère a son origine du mot sentir. Et il s'agissait de ceux qui avaient l'habitude de potiers, de fabriquer des vases. Et s'il y avait une fissure après avoir placé l'argile dans le feu pour préparer le vase, s'il y avait un tissu, ceux qui n'étaient pas honnêtes prenaient de la scie pour remplir la tissu et puis teinter cela pour emmener quand même au marché. Mais le problème, c'est que le pauvre qui achète une telle vase et puis met ça sur le feu, dès que le feu chauffe, qu'est-ce qui se passe? La scie fond. Et c'est là qu'on voit le dégât. Et ici, le mot sincère, sans scie, signifie que voici un cœur qui est attiré par la grâce de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Et c'est grâce à cela qu'on s'approche. Ce n'est pas pour être vu des hommes et ce n'est pas pour qu'on reçoive quelque chose de Dieu. Si je fais ceci, alors Dieu voilà cela. Non. Un cœur sincère a un seul but. Et c'est la glorification du Seigneur Jésus-Christ pour son œuvre qu'il a accomplie à l'égard des pécheurs tels que nous sommes. Et c'est dans ce sens-là, un cœur sincère est un cœur dans la plénitude de la foi. Et lorsqu'on voit ce mot « la foi », on peut mettre à côté Christ, parce que c'est Christ qui est l'objet de la foi. Il n'y a pas de foi sans Christ, la révélation de Christ. Donc, nous pouvons dire qu'un cœur sincère est un cœur plein de Christ, plein de la révélation de Christ à travers sa parole, plein de Christ crucifié. Et chaque fois qu'on s'approche, on se rend compte qu'on est pécheur, oui, mais en même temps, nous glorifions Christ pour son œuvre. Et aussi, nous nous approchons non seulement d'un cœur sincère, deuxièmement, de la plénitude de la foi, mais notons les cœurs purifiés. Notons, ce n'est pas en vue de purifier le cœur, on ne peut pas faire ça nous-mêmes, mais un cœur purifié déjà par le sang versé du Seigneur Jésus-Christ est purifié d'une mauvaise conscience. Vous savez que nous vivons dans une chair qui va toujours nous accuser, laisser à nous-mêmes. Mais notre espoir, c'est que par la grâce de Dieu, lorsque nous approchons à travers son sang déjà vérifié, par lequel nos cœurs sont déjà purifiés, voilà la réponse à une mauvaise conscience. Lorsque cette conscience va nous critiquer et nous juger, et combien de fois est-ce que les pensées sont arrivées dans nos cœurs pour que nous disions, mais comment je peux être enfant de Dieu et que je viens de faire ce que je viens de faire, ou bien de penser ce que je viens de penser, ou dire ce que je viens de dire, c'est contraire même à la grâce de Dieu. Combien de fois cette conscience nous jugera, mais cela ne doit pas nous empêcher de nous approcher. Au contraire, c'est pour cette raison que nous nous approchons davantage, sachant que déjà cette conscience a été purifiée par le sang de Christ et le corps l'avait d'une eau pure. C'est-à-dire, c'est l'œuvre de Christ qui nous a rendu pur de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Il n'y a rien que Dieu regarde dans ses enfants pour lesquels il doit les accuser, parce que Christ a déjà payé la dette. Alors, notons ces exhortations ici, encore à cause de ce que Christ a accompli. Nous devons entrer, parce que dans le premier verset 19, nous devons nous approcher avec grâce, mais voici dans le verset 23 maintenant, retenons, notons ces exhortations, retenons approchons, mais retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, à la lumière de ce que Jésus-Christ a accompli, nous tenons fermement à cette vérité de qui il est et ce qu'il a accompli. Quand il s'agit ici de la profession, dans le verset 23, ce n'est pas comme les professions qui se passent tous les jours dans la fausse religion, où on invite des gens à venir devant et faire une profession de leur foi. Non. Ici, le mot profession, c'est le mot compression. C'est-à-dire de tenir ferme à la confession, c'est une confession de foi. Et le mot confession signifie de dire la même chose qu'un autre, de confesser. Et donc, en retenant fermement cette profession de notre espérance, nous ne faisons que de dire ce que Dieu lui-même a dit au sujet de ceux pour qui Christ est mort. Notons, le verset 23, celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous n'avons pas de fidélité en nous-mêmes, mais celui qui a fait la promesse est fidèle. Comment est-ce que nous pouvons tenir fermement à cette confession de foi, quels que soient nos moments de découragement? Mais ces moments ne font jamais vaciller de la vérité. La vérité reste telle. Donc cette confiance est renouvelée dans la grandeur du Seigneur Jésus et de ce qu'il a accompli pour ses enfants. Cette exhortation, tenons ferme, retenons fermement, pouvait bien être écrit sur la couverture de la Bible de chaque enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous avons cette Bible. Ce sont les exhortations, c'est la révélation de Christ, mais ce sont les exhortations aussi à ce que nous tenons fermement à qui il est. Et sans hésitation, et le mot grec ainsi traduit n'est utilisé qu'ici dans le Nouveau Testament. Et c'est basé sur l'idée d'un objet droit qui ne s'incline pas du tout par rapport à la vraie perpendiculaire. Donc, il n'y a plus de place dans notre expérience pour chanceler, si vous voulez. Maintenant, fermement à la foi objective en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu est fidèle. Alors, beaucoup de gens parlent de quand ils tiennent fermement à la Bible, dans la parole de Dieu, pourtant ils ne croient même pas au Dieu de la Bible. Donc ici, le Dieu de la Bible est fidèle à ce qu'il a promis. Qu'est-ce qu'il a promis? C'est écrit car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a promis sauver un peuple en envoyant son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, dans ce monde. Et qu'à travers l'œuvre de ce sauveur, ce peuple devait être sauvé et a été sauvé. C'est une œuvre accomplie. Voilà les bonnes nouvelles que nous avons annoncées. Donc à la lumière de ce que Jésus a fait, nous tenons fermement à lui qui est la vérité. Et puis, quatrièmement, nous voyons ici dans les versets 24 et 25, à la lumière de ce que Jésus a accompli, nous poursuivons la fraternité avec le peuple de Dieu. Dieu ne nous sauve pas pour nous mettre en isolation. Au contraire, comme c'est écrit dans le verset 21, que nous avons un souverain facteur établi sur la maison de Dieu. Il y a une maison. Qu'est-ce qu'une maison si ce n'est pas une famille qui se rassemble et qui vit ensemble? Voilà l'image que nous voyons ici. C'est pourquoi le verset 24 et 25 nous exhorte, veillons les uns sur les autres. Pas avec un œil critique ou de jugement pour veiller, pour voir si tel ou tel est en train de marcher comme il faut. Mais nous veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. C'est-à-dire faire manifester cette grâce de Dieu à travers nos vies et d'avoir de la sympathie pour d'autres, exactement comme Dieu nous a fait miséricorde par sa grâce en Jésus-Christ. Et donc, dans le verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée. Quand il s'agit de l'assemblée là, cela ne se réfère pas aux heures de se réunir dans les différents lieux de culte. Quoique c'est une occasion de nous rassembler, mais on ne peut pas critiquer quelqu'un puisqu'il n'est pas là chaque fois. Il y a d'autres qui vivent au loin, il y a d'autres qui tombent malades, il y a d'autres qui sont occupés dans leur travaux qui vont, alors on ne peut pas les critiquer, vous dire « Ah, il ne faut pas abandonner l'assemblée », ce n'est pas dans ce sens. Mais ici, dans le verset 25, quand c'est écrit « abandonner », ne pas abandonner notre assemblée, on ne peut pas dire que nous sommes enfants de Dieu, sauvés par sa grâce, ayant l'Esprit de Dieu en nous, mais on n'a aucun désir de se rassembler avec ceux qui sont de la même foi. Il suffit pas pour nous de simplement chercher un Dieu de qui pour dire, ah, mais je vais me rassembler. Non, mais qu'est-ce qui est prêché là? Et est-ce que Christ est réellement prêché dans ces lieux? Sinon, ce n'est pas ici une exhortation simplement d'aller dans un lieu de culte. Non. Ceux qui sont, c'est comme des brebis. Quand il y a des brebis dispersées, qu'est-ce que les brebis font? Les brebis cherchent les autres brebis pour se rassembler. On entend les cris de loin. S'il y a une brebis qui est éloignée, c'est ainsi avec ceux qui sont véritablement enfants de Dieu. Ils cherchent cette fraternité en Christ. Et si d'autres demande, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette fraternité que vous avez, que nous n'avons pas? Mais la différence, c'est dans le message. C'est dans le Christ qui est prêché. Nous ne pouvons pas chercher à nous fraterniser avec des gens qui renient le Christ qui est révélé en nous. Donc c'est dans ce sens-là, n'abandonnons pas notre assemblée. Notons, comme c'est la coutume de quelques-uns, il y a beaucoup de gens que nous pouvons rencontrer, oui, ah oui, mais je crois à ce message que vous croyez, nous sommes un. Pourtant, ils ne cherchent pas à se joindre à nous, parce qu'en réalité, ils sont attachés toujours à leur tradition et au message de leur soi-disant libre arbitre. Et qui ne peut pas s'attacher à nous par crainte ou bien par peur de l'isolation qu'ils vont expérimenter si effectivement ils se joignent à nous. Voilà ce dont il parle ici. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Il y en avait même à ceux qui l'écrivaient qui étaient des judaïques. En même temps qu'il disait, oui, nous croyons que Jésus est le Christ, mais il continuait à imposer les lois et les règlements, et c'était des légalistes. Ils avaient toujours des conditions qu'ils imposaient sur leurs adeptes. Tel n'est pas le cas pour nous. Nous n'avons qu'une seule règle de vie, si ce n'est Christ et son œuvre accomplie à l'égard de son peuple. Voilà notre règle de vie, selon ce qui est écrit dans les Écritures. Alors, ceux qui vivent à la lumière de Christ et ce qu'il a accompli, ils cherchent cette fraternité en Christ et ne cherchent pas à aller ailleurs pour avoir cette fraternité. C'est pourquoi l'auteur dit ici dans le verset 25, exhortons-nous réciproquement. C'est parce qu'il y a la vie qui est dans chacun des enfants de Dieu, donné par l'Esprit de Dieu lui-même, et c'est cet Esprit qui les vivifie. Et par cet Esprit, il désire se rassembler. Ce n'est pas forcé. Des gens ici qui, depuis des années, entrent et sortent de temps en temps, mais qui ne sont pas réellement attachés à nous, ni à ce message que le Seigneur nous a donné à prêcher, mais il y a d'autres. Et un reste, c'est ce que j'aime les appeler selon les Écritures, de ceux qui peut-être ne sont pas nombreux, mais chaque fois qu'il y a cette occasion de se rassembler, ils sont avec nous. Et ils se jouissent dans cette joie de pouvoir entendre une fois de nouveau le message de Christ. Nous avons une vieille femme dans notre assemblée qui a maintenant 92 ans. Et donc, sa santé varie de semaine en semaine, mais lorsqu'elle a l'occasion de venir, elle vient. Et comme ce dimanche passé, quand j'ai fini de prêcher, nous étions à la fin du culte, elle s'est approchée de moi pour me dire, je ne peux pas vous dire combien est ma joie d'être ici et d'entendre de nouveau ce message de Christ. Ah, voilà un de ceux-là qui ne peut pas abandonner l'assemblée, parce que c'est là que Christ est prêché. Et nous exhortons réciproquement, parce que ce n'est pas facile de se rassembler souvent dans le petit nombre que nous sommes, mais nous exhortons réciproquement. Et notons cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel jour? Le jour où nous ne serons plus sur cette terre, le jour où Dieu nous prendra dans la mort si Christ ne revient pas d'abord, et que voilà, tout ce qui est annoncé ici deviendra plus que jamais une réalité. De savoir que ce que nous avons suivi et cette confession que nous avons retenue n'était pas simplement de la philosophie, mais c'était la vérité telle que s'est révélée ici dans les Écritures. Voyant le jour s'approcher, le jour où soit Christ revient ou bien qu'il nous prendra de ce monde à travers la mort. Alors, versets 26 et 27, je vais commencer par là la prochaine fois, parce que c'est important de comprendre le contexte. Quand c'est écrit, car si nous péchons volontairement, quand il s'agit de pécher volontairement, c'est dans le contexte de quitter ce message et tourner dos et aller ailleurs, suivre autre voie. Si quelqu'un pêche volontairement, et le sens là c'est de prendre cette décision avec rebelle, comme rebelle, des rebelles, volontairement dans le sens de vouloir, ne plus vouloir entendre ces messages et aller ailleurs. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, quelqu'un qui est tiré à part maintenant pour suivre d'autres voies, ça ne dit pas que c'est quelqu'un qui a été converti déjà. C'est comme dans Hébreux 6. Ce sont des gens qui, pour un certain temps, étaient assis sous l'écoute de ce message de Christ et de la grâce. Mais maintenant, volontairement, selon cette volonté dépravée en eux, se sont révoltés et allés suivre d'autres voies. C'est écrit, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ça veut dire là où ils sont partis chercher, trouver peut-être un peu de paix, mais ce n'est pas en Christ, c'est Christ crucifié. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. On ne trouvera jamais de sacrifice pour les péchés, sauf le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Donc s'ils partent, c'est à cause de l'aveuglement dans leur cœur et que cette rébellion se manifeste. Mais où ils sont partis, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Et s'ils partent et Dieu les laisse continuer dans cette fausse voie, alors ils seront condamnés selon ce qui est écrit dans le verset 27. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera, notons, les rebelles. On ne doit pas traiter avec indifférence ceux qui s'opposent à ce message de Christ. Ce sont des rebelles. Et nous devons avoir le courage, souvent, de dire aux gens qui suivent une fausse voie, qui cherchent le pardon du péché, qui cherchent la justification devant Dieu par autre moyen et en autre manière que l'unique l'œuvre de Jésus-Christ accomplie pour les pécheurs. Alors voilà ce que Christ a accompli pour son peuple. Et ma prière, c'est que nous puissions toujours nous réjouir en lui et ce qu'il a accompli. Amen.